sans question. Jacques Beaufort reçoit aujourd'hui
Maurice Efty. Vous êtes ethnologue, archéologue, spécialiste des civilisations précolombiennes et plus particulièrement des Mayas, Maurice Efty. Pourquoi cet intérêt pour les Mayas ?
Oh, c'est un intérêt qu'on pourrait presque dire de toujours, bien que je ne sois pas très âgé. Mais c'est une petite histoire, ce serait l'occasion d'en parler. Effectivement, lorsque j'étais gosse, peut-être entre 7 et 8 ans, j'avais une bonne enseignante vaudoise qui devait travailler à l'époque, qui avait un frère qui était dans l'horlogerie et qui m'avait remis une bande dessinée racontant l'histoire d'un petit, une petite montre, d'un petit bonhomme montre, montre étanche à l'époque, c'était la grande nouveauté, et qui se promenait dans le monde entier lorsqu'il est arrivé chez les Mayas, justement. Je crois que ça a été le tilt, enfin le choc. Et j'ai découvert la jungle, surtout, et certaines ruines en compagnie de ce petit bonhomme. Je me rappelle que je l'ai réouvert plusieurs fois, en fait. Donc il y a certainement une attirance de base assez étrange, sûrement par rapport à ce fameux mystère maya, qui est toujours un mystère d'ailleurs.
Et vous vous intéressiez à l'histoire également ?
Ah, c'était peut-être une de mes branches les plus sympathiques, car on ne fait pas toujours ce qu'on aime, bien sûr, même à l'école. Avec la géographie, peut-être, enfin, avec un certain type de branche correspondante, effectivement, l'histoire, mais pas l'histoire telle qu'on l'entend, c'est-à-dire la fameuse histoire d'Europe ou de France ou de Suisse, mais toujours ce côté un peu disons exotique.
Vous étiez un enfant studieux ?
Non, pas du tout. Je ne crois pas.
Vous n'aimiez pas tellement l'école ?
Si, j'aimais les contacts, mais lorsqu'il était possible d'en avoir, car en fait, je crois qu'on a un système assez particulier. Lorsqu'on vit à la campagne, on a souvent un seul, enfin c'était mon cas, on a souvent un seul enseignant jusqu'à 10 ou 12 ou même 13 ans. Et c'est assez déterminant, en fin de compte, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il y a des attirances ou il n'y en a pas du tout. Et ça a été assez contradictoire parfois.
Où s'est déroulée votre enfance ? Vous venez de parler de la campagne.
Ah oui, moi je suis un enfant de la côte, enfin de la côte vaudoise. Et c'est une région qui m'a beaucoup touché. J'ai peut-être aimé le Mexique à cause des grands horizons. Vous savez, quand on a l'habitude d'avoir le lac et les Alpes en face, on a facilement un coup d'œil sur pratiquement 80 km. Et je vous assure, c'est important. J'aurais beaucoup de peine à vivre en Hollande, par exemple.
Aimiez-vous visiter les musées aussi lorsque vous étiez enfant ?
Je crois que c'est peut-être le genre d'endroit public où je suis entré d'abord. C'est-à-dire, j'avais la chance d'avoir des parents qui se rendaient assez souvent à Lausanne. Et je me rappelle avoir passé de nombreuses heures dans le musée cantonal. Et à tous les étages, d'ailleurs, il y avait des branches très différentes.
Avez-vous fait des études d'histoire, alors, pour finir ?
Pas du tout, parce qu'avec cette fabuleuse filière de l'éducation, vaudoise en l'occurrence, je n'accuse personne, mais enfin, lorsqu'on est de la campagne, si on ne prend pas le premier escalier, on a toutes les chances de finir, par exemple, comme moi, à l'école de commerce. Je crois que beaucoup de personnes en sortant doivent maintenant sourire.
Vous êtes ennuyé à cette école de commerce ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, parce qu'il y avait énormément de branches annexes, fort sympathiques, à part celles qui correspondaient directement au commerce, justement.
Que vouliez-vous faire ? Vous le saviez à cette époque-là ?
On ne sait jamais tellement avant de le savoir, en fin de compte.
Et quand l'avez-vous découvert, alors ?
À la fin de l'école, à la fin des années obligatoires. Et, il y a eu, disons, un appel, surtout par ce continent qui était l'Amérique, mais je parle de l'Amérique indienne, à partir de 15-16 ans. Et puis bon, mais il faut finir ses études, ensuite il faut éventuellement avoir un peu d'argent, etc. Et là, d'un seul coup, j'ai décidé de ne pas continuer mes études en Europe, mais de glisser directement sur le Mexique après avoir appris un peu l'espagnol et l'avoir même appris beaucoup mieux sur un bateau, puisque je suis parti de cette façon.
Quel âge aviez-vous lorsque vous êtes parti pour la première fois pour le Mexique ?
Oh, je venais d'avoir 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans et en fait, c'était en même temps l'aventure, c'était l'inconnu. Bon, j'avais des amis sur place, entre guillemets, car le mot ami est encore quelque chose de bien spécifique pour le Mexique. Mais disons que j'avais des gens éventuellement pour me recevoir, pour m'aider. Mais c'était l'inconnu complet. Enfin, c'est assez fantastique, même à 20 ans, de passer par Barcelone, de voir Colomb, le bras tendu, d'arriver dans les Antilles, de finir sur le Venezuela, de remonter sur Cuba, terminer au Mexique. C'est toute une aventure. Disons, on peut la vivre intensément, surtout sur un vieux bateau.
Mais pourquoi aviez-vous pris le bateau ?
Parce que c'était moins cher à l'époque, je vous l'avoue, c'était une chance assez extraordinaire. À l'époque, là, je peux bien donner des chiffres, on voyageait pour pratiquement 2 mois, enfin je suis resté presque 2 mois sur ce cargo passager, car ça n'était pas un cargo pur, on était quand même une centaine de passagers, on payait 1000 francs, enfin c'était nourriture comprise, ce qui est assez extraordinaire, avec le vin discrétion, un bon vin espagnol. Et ça m'a permis justement de mieux apprendre l'espagnol, en l'occurrence, parce que pratiquement tous les gens qui étaient sur ce bateau étaient des gens qui rentraient au pays, que ce soit en Colombie, au Venezuela, dans toutes les Antilles, Porto Rico, etc.
Et vous vous souvenez de l'impression que vous avez eue, du sentiment que vous avez éprouvé lorsque vous avez débarqué ?
J'avais relu encore sur le bateau l'histoire de la conquête du Mexique de Bernal Díaz del Castillo. Et bon, c'est des souvenirs visuels, c'est assez intense lorsqu'on est accompagné par une cinquantaine de dauphins, qu'on est à la proue et que tout à coup, c'est assez gris dans la grisaille, on voit un sommet à plus de 5000 mètres, le fameux pic d'Orizaba enneigé, et une longue file de cocotiers des couleurs vert tendre enfin, de la mer. C'est assez extraordinaire, effectivement. Ce n'est pas Veracruz que j'ai découvert, c'est le Mexique vierge, si vous voulez, par le coup d'œil à longue distance.
Et vous n'avez pas été déçu du tout ?
On ne peut pas être déçu d'un pays qui est aussi choquant. J'entends, on parle, on le voit, on a tous une image du Mexique, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. On ne peut pas être déçu car ce sont des gens extrêmement volubiles, qui une musique. Enfin, je suis tombé dans la région où la musique est très intense. Veracruz, c'est l'habitude de rester très tard le soir dehors. C'est déjà une ville très particulière, extrêmement provinciale et surtout très gay.
Et vous vous êtes senti tout de suite à l'aise au Mexique ? Presque chez vous ?
Non, pas du tout. Alors ça passe très vite, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'après plusieurs semaines, on se rend compte que toute cette joie, ces fêtes, cet accueil de tout ce qui est étranger, justement, c'est-à-dire qu'on est toujours admis dans le sein d'une famille. On a peut-être quelques avantages, non pas comme Suisse, mais comme francophone. La culture française est très appréciée dans ce pays, beaucoup plus que la culture anglaise, il faut bien le dire, même si les Français sont aussi arrivés en colon à leur moment. Mais disons que pour un Mexicain, c'est sympathique de rencontrer quelqu'un de langue française.
Est-ce lors de ce premier voyage que vous avez décidé de vous inscrire à l'École nationale d'anthropologie de Mexico ?
Oui, absolument. Et c'est une école assez étrange. Bon, le choix du Mexique s'est fait, que j'aurais très bien pu me rendre au Pérou ou dans un autre pays, disons, d'Amérique latine. Le choix du Mexique s'est fait peut-être par le renom de cette école à l'époque. Je dis bien à l'époque, car effectivement, ça fait bientôt 10 ans.
Mais pourquoi, par exemple, ne vouliez-vous pas faire d'études ethnographiques en Europe ?
Oh, là, c'était un parti pris de départ, c'est-à-dire que j'estimais que pour faire, en l'occurrence, de l'ethnographie, il fallait plutôt se rendre dans un pays où on pouvait directement avoir la théorie sous la main et surtout la pratique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, je l'ignore puisque je n'ai jamais fait d'études en Europe dans ce domaine, mais il est plus difficile en étant à Neuchâtel ou à Paris d'étudier d'une façon réelle, par exemple, l'art précolombien ou les tribus indigènes.
Vous n'avez jamais été déçu par cette École nationale d'anthropologie de Mexico ?
La déception est un mot spécial pour un pays où tout change si vite. C'est une école qui a subi cette fameuse époque de 68, justement, qui était terrible au Mexique, qui a suivi à quelques mois celle de Paris, mais avec une façon, disons, beaucoup plus virulente et plus grave politiquement, certainement. Et en fait, cette école a été prise dans ce remous général, et comme elle est totalement séparée de l'Université autonome de Mexico, elle a pu en fait sortir comme un petit bourgeon à sa façon, enfin, une méthode nouvelle, des systèmes nouveaux.
Et vous y étiez depuis combien de temps ? Lorsque justement ces événements se sont produits ?
Ça s'est fait en plusieurs temps. Il y a eu d'abord les événements de 68, et ensuite au Mexique, il y a eu d'autres événements en 71. Et c'est là où le choc a été le plus intense sur cette petite école. Car effectivement, financièrement, c'était une école qui était relativement peu appuyée par le gouvernement, bien qu'elle ait un renom international. Et bon, à peu avoir, autant ne rien avoir. Et là, tout est possible. C'est-à-dire que les professeurs eux-mêmes ont décidé de se lier aux élèves. Enfin, on avait. Tout le monde connaît Ivan Illich, mais par exemple, c'était un voisin qui nous a donné quelques coups de pouce. Et si on a lu Société sans école, et puis on comprend quel genre de coups de pouce on a subi. Et ça a été une expérience assez fantastique parce que bizarrement, le Mexicain est habitué. Il y a quand même une bonne couche de la population qui était petit bourgeois ou même d'assez bas dans cette école, ce qui est assez curieux par rapport à des écoles de droit ou à d'autres écoles qui sont vraiment réservées à une élite mexicaine. Eh bien, ces gens-là n'avaient pas tellement besoin d'argent, mais ils avaient envie de faire quelque chose. Et par la motivation, justement, on est arrivé à des résultats d'études assez, assez extraordinaires. Bon, sur le plan du papier, les études ne suivaient plus avec l'éducation publique, mais disons qu'on a obtenu certains résultats assez, assez extraordinaire pour l'époque, disons, et pour l'endroit surtout.
Y avait-il beaucoup d'étrangers à cette époque, dans cette école?
Non, pas tellement. Il y avait quelques Américains, beaucoup de Sud-Américains ou de Centre-Américains, spécialement du Guatemala, qui est le voisin, mais la majorité était tout de même mexicaine. Il y avait quelques Européens, enfin, on était deux Suisses à l'époque, ensuite on n'était plus que Suisse tropicale seul, mais effectivement, c'est une école qui est très réservée, malgré tout, aux Mexicains.
Quelles étaient les conditions d'admission?
Aucune particulière, si ce n'était une revalorisation.
Vous n'avez pas dû passer d'examen, par exemple?
Si, j'ai eu des examens, oui. Alors au départ, il y avait encore des examens, ensuite ils ont naturellement été supprimés. Mais bien sûr, il y avait des examens qui portaient justement sur une étude de 2 mois, à peu près, avant la présentation de l'examen, sur les thématiques de base, disons, de l'anthropologie.
Et lorsque vous avez été donc admis dans cette école, vous avez pu travailler tout de suite sur le terrain? Très facilement.
Eh bien oui, ça c'est assez extraordinaire. Déjà dans les 6 premiers mois d'études, vous avez l'obligation de choisir un thème pratique. Et disons que ça permet déjà de lier les quelques branches théoriques à une forme de pratique. Ça n'est pas fait en profondeur, bien sûr, mais disons que ça nous permet de remarquer immédiatement l'impact qu'on peut avoir sur une société différente de la nôtre. En l'occurrence, ça peut être un paysan ou à l'extrême, justement, un indigène qui est totalement différent du reste du pays.
Mais comment le travail sur le terrain était-il organisé? Comment vous l'organisiez-vous, en fait?
Ah bien, déjà au départ, on avait l'habitude d'avoir des petits groupes de travail. Et on était toujours appuyé par les aînés. C'est-à-dire soit professeurs, soit élèves de dernières années, ou des personnes qui faisaient partie d'un institut X, Y, Z.
Et vous avez le sentiment d'avoir beaucoup appris dans cette école, Maurice Efti?
Je n'ai pas appris au sens où nous l'entendons en Europe. Il m'arrive d'avoir quelques difficultés sur le plan purement universitaire, disons, de discuter avec certains Européens. Mais par contre, alors, sur le plan de l'application, et c'est là où était ma vraie passion, et c'est un peu pour ça que j'avais choisi. J'ai eu de la chance de suivre ces événements, car cette application est une chose extrêmement difficile à notre époque. On veut tout mettre sous le nom de science. Mais j'en parlais tout à l'heure, effectivement, le problème, c'est l'humanité, enfin, humaniser ou sensibiliser. Et je crois que même avec une science, ces choses-là sont autorisées, et surtout avec une science humaine.
Vous avez eu l'occasion de découvrir, en fait, les hommes dans le cadre de votre travail dans cette école.
Disons, de découvrir une nouvelle façon de les voir, et obligatoirement une nouvelle façon, éventuellement, de les aider. Et je mets encore des guillemets dans le mot « aider ».
Vous avez pu les aider?
Eh bien, c'est une chose que je continue, même maintenant, mais je n'aime pas ce verbe parce qu'on ne les aide pas. On peut éventuellement les appuyer à faire seul quelque chose. Et je crois que la nuance est énorme, mais on a toujours eu l'habitude d'être partenaire. Enfin, les gouvernements, les institutions ont, qu'elles le veuillent ou non, une idée paternaliste au départ. Et un système d'intégration, par exemple, du monde indigène, puisque c'est de cela qu'on parle, eh bien... finit toujours sur une obligation de changer. Et personne ne peut être obligé à quoi que ce soit. Eux-mêmes ont envie de changer ou de ne pas changer. À la limite, disons, même s'il s'agit d'un noyau de résistance, puisque c'est un peu comme ça que réagit l'indigène, eh bien, cette résistance, il ne faut pas l'appuyer. Ça, c'est aussi fait, alors là, d'une façon politique intense dans ces pays-là. Il faut peut-être l'aider à être telle qu'elle doit être pour eux, selon leurs critères et leur façon de le voir. Donc là, l'aide est des fois très indirecte.
Mais ne vous êtes-vous pas heurté à des problèmes, à des difficultés politiques?
Toujours. Toujours, parce que, d'autant plus en tant qu'étranger, parce que bon, on ne me voit pas, mais je suis très suisse et très européen de peau, mes cheveux, etc. Ça, c'est une... Il y a déjà un choc de départ. On vous appelle le blond, on vous appelle le gringo, on vous donne souvent des noms très péjoratifs. Bon, il faut ouvrir la bouche et montrer qu'on a pratiquement pas d'accent, ce qui est le propre des Suisses quand ils apprennent une langue étrangère. Mais disons que là, le côté étranger est un impact pénible, mais à la longue, il est des fois préférable de ne pas être du pays. C'est curieux. Ils vous feront beaucoup plus confiance si vous leur prouvez que vous êtes, alors là je pourrais dire neutre, on a de la chance d'avoir encore un pays qui est à la limite. À la limite est peut-être considéré comme tel à l'étranger. Et grâce à ça, l'Indien vous fera peut-être beaucoup plus confiance qu'à un Mexicain qui lui a malgré tout pratiquement toujours été là pour l'exploiter. Disons. En tout cas par la colonie.
Je rappelle que vous êtes ethnologue, archéologue, spécialiste des Mayas, Maurice Efti. Combien d'années au total êtes-vous resté au Mexique?
Si je compte tous les mois où j'y retourne, peut-être 5 ans, peut-être 6 ans, je ne sais pas.
Et à quelle époque avez-vous décidé de tourner un film sur les Mayas?
Ça, c'est un peu particulier. Disons que l'habitude d'obtenir des documents à l'école m'intéressait beaucoup. Bon, c'est peut-être par... un côté pictural, j'adore dessiner, j'adore peindre, et effectivement, on a besoin de ce genre de renseignements malgré tout. Et d'une façon tout à fait fortuite, j'ai rencontré un cinéaste de métier qui avait envie de trouver quelqu'un capable de lui monter un scénario et d'avoir des idées sur... Il n'avait pas du tout d'idées préconçues sur son film à faire sur le Mexique. Il avait des capitaux, il avait des caméras, Et au bout de quelques semaines, effectivement, on a trouvé un moyen de contact avec mon épouse, car elle était très importante dans cette expédition, puisqu'elle s'est occupée du son. Eh bien, à trois, on a créé cette équipe à part entière, c'est-à-dire bénéfices et craintes partagées. Et là, effectivement, on a tourné pendant plusieurs mois. C'était beaucoup trop long, parce que en général, quand on fait un simple reportage pour ce genre de conférence, puisque c'était le but du tournage, eh bien, on arrive à le faire en quelques semaines, souvent. Et là, on est resté plusieurs mois, presque une année. C'est beaucoup trop pour ce genre de choses, mais on a eu des difficultés énormes. C'est-à-dire que, bon, on voulait... Enfin, le scénario que j'avais monté était un scénario extrêmement ambitieux, puisqu'on voulait présenter la civilisation maya depuis l'arrivée des premiers Américains, sa chute, et puis ensuite, éventuellement, des résurgences chez les indigènes d'aujourd'hui, en tenant compte, naturellement, de cette énorme période coloniale. Et il y a une thématique mystérieuse par le fait qu'on découvre une forme de philosophie, de religion, et puis qu'on voit comment elle a été continuée, mais il ne faut pas oublier que les indiens d'aujourd'hui sont plutôt les déshérités de leur grande civilisation. Mais le peu qui est resté est intense et souvent extrêmement intéressant à décrypter. Alors, sur les sites archéologiques, on a eu certains problèmes, spécialement de température, il faut l'avouer. Des sites comme Tikal, Bonampak, Yaxchilan sont en général dans des zones où il fait facilement 40-45 degrés. Et quand vous avez des films qui ne supportent pas plus de 13 degrés pour avoir des images très sensibles et très belles, eh bien, on court assez vite du réfrigérateur, puisqu'on en avait un jusqu'à la prise de vue. Mais par contre, alors si là, il y a eu quelques difficultés qui sont facilement surmontables, c'est lorsqu'on a touché le monde indien qu'on a remarqué que ça
n'était pas... Donc les Mayas d'aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire tous les indigènes du sud du Mexique, du Guatemala en particulier, donc sont les plus puissants sur le plan culturel. Bon, les zones comme le Yucatan sont intéressantes, mais on peut dire qu'elles ont dégénéré dans un mode qui correspond beaucoup plus au mode courant du métis. Tandis que dans ces zones-là, eh bien, effectivement, il y a des tribus, des communautés qui sont fermées, qui ont un système économique, politique, religieux, différent du reste du pays, et qui tiennent à les conserver. Enfin, il y a des aberrations sur le plan des votations, ça n'existe pas toujours. Vous avez des aberrations sur le plan de la propriété terrienne, qui peut changer d'un village à l'autre. Il y a des terres qui sont communes à tout le village, il y en a qui sont simplement par usufruit. Enfin, tout est différent d'une communauté à l'autre, et les langues sont toutes différentes également. Donc là, il y a de gros, gros, gros problèmes déjà de compréhension pour nous-mêmes.
Et des problèmes économiques également, j'imagine.
Bien sûr, parce que vous avez des tribus qui ont des surfaces suffisantes pour nourrir tout le monde. Et d'ailleurs, les différences, je parlais de la terre, les différences de propriété sont justement dues à la place ou la possibilité de subdiviser par héritage, par exemple. Donc, si une tribu a très peu de terrain, on essaye d'avoir un héritage unique sur une seule tête, et les autres se débrouillent comme ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de quitter la tribu, très souvent. Ou alors, s'il y a suffisamment de place, alors on découpe sans arrêt. Même parfois, les femmes ont droit à l'héritage. Ça vous crée des lopins de terre, je vous assure, qui ont des fois 4 ou 5 mètres carrés. C'est assez terrifiant, effectivement.
Les villages mayas, en fait, sont-ils situés sur les anciens sites archéologiques ?
C'est-à-dire que l'endroit où il se trouve, eh bien, c'est toute la grande Sierra Madre qui descend depuis le nord du Mexique et qui continue sur l'Amérique centrale. Eh bien non, ce sont des zones extrêmement élevées, situées entre, disons, 2000 et 3000 mètres d'altitude. Mais il y a toujours eu des Mayas à cette altitude. La seule différence avec les terres côtières ou les terres de plaine ou la forêt vierge, c'est qu'il n'y a jamais eu d'éclosion de grands monuments dans ces zones-là. C'est des zones qui, à l'époque... Donc là, je parle de la grande époque classique, hein, qui va du début de notre ère à 800-900. Eh bien, il suffisait de cultiver. On n'avait pas besoin d'un calendrier complexe, etc. Tandis que dans les terres basses, alors là, c'est créé toute une forme religieuse et un pouvoir aux mains d'une élite qui a permis la création de ces fantastiques cités, enfin, centres cérémoniels plutôt, que l'on visite aujourd'hui.
Quelle est l'origine, en fait, des Mayas ? La connaît-on très exactement ?
On connaît l'origine des Amérindiens, éventuellement. C'est-à-dire que, normalement, tous ont plus ou moins passé le détroit de Bering lorsque ce détroit était encore sous les glaces. Mais quant aux Mayas, effectivement, ils ont peut-être un lien, encore faut-il le préciser, avec les Olmecs, qui est la première des grandes civilisations mexicaines, qui, curieusement, se sont également établis dans des terres de jungle. Et la raison pour laquelle ils sont peut-être arriver à créer ces cités dans la jungle, c'est parce que, bizarrement, peut-être pour des raisons religieuses d'abord, mais surtout pour des raisons économiques, c'est là qu'on retrouve tous les produits de luxe. Alors, ça existait aussi. Et ces produits de luxe, eh bien, ça peut, on peut les reprendre rapidement. C'est par exemple les plumes exotiques. Enfin, la plumasserie était un art extraordinaire, puisque les orfèvres n'étaient pas encore présents. La couleur et la décoration, on le retrouve en Amazonie, c'est la même chose. Il y avait le cacao qui a servi par exemple de monnaie dans toute la zone d'Amérique centrale. Il y avait également le caoutchouc qui a été utilisé pour les jeux de pelote, enfin ces fameuses balles du jeu de pelote. Et puis il y avait surtout l'encens, le copal, qui ne pousse qu'à ces altitudes de forêt tropicale. Et cet encens était certainement exporté. Et comme c'est une zone extrêmement humide, ils ont aussi pu utiliser les canaux. Les grands cours de rivière, enfin les grandes rivières, parce que faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'animaux de trait à cette époque. Donc il y a un tas de circonstances qui ont pu effectivement permettre une éclosion dans les terres qui aujourd'hui nous paraissent aberrantes.
Mais à quelle époque se situe l'apogée de la civilisation maya?
Entre 300 et 900 de notre ère à peu près. Et c'est là que disons, aux mains d'une élite toujours plus restreinte, on remarque un avancement scientifique extraordinaire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont baser toute leur connaissance sur le calendrier, sur le temps, en fait. C'est un résumé, mais le temps a été une obsession extraordinaire pour eux, car ils pensaient que le monde pouvait revenir sans cesse, qu'il y a eu des disparitions déjà fréquentes des premiers... par différents déluges, en l'occurrence, et que d'un instant à l'autre, plus exactement à la fin d'un cycle de 52 ans, par exemple, tout pouvait être à nouveau annulé. Et l'humanité étant créée par les dieux, il fallait également leur offrir certaines choses. Et à la fin, effectivement, de la période classique, c'est la découverte du sacrifice humain, qui est en fait la nourriture parfaite pour les dieux solaires, en l'occurrence, souvent. Ces dieux qui eux-mêmes, selon la mythologie, s'étaient sacrifiés pour créer l'homme. Donc c'est une chose assez simple à comprendre, cruelle mais simple à comprendre. C'est la seule chose qu'on pouvait vraiment offrir à une divinité, d'autant plus que la vie n'avait pas d'importance à cette époque. On prétendait que tout était basé sur la mort. Alors pour créer une société militariste, par exemple, on disait simplement que les guerriers morts sur le champ de bataille ou ceux qui étaient morts sur l'autel des sacrifices avaient droit au meilleur des paradis. Avec ça, ça fonctionne.
Les fameux sites archéologiques mayas sont-ils en fait d'anciens temples, d'anciens centres religieux?
Eh bien, on pourrait, disons, c'est assez difficile de trouver une comparaison avec l'Europe.
On l'a dit souvent.
Ce sont en général des pyramides sous forme de temples, au sommet desquels il y a un temple. Bon, la pyramide était souvent la reprise aussi d'une idée de montagne ou de niveau. C'est-à-dire que dans la conception philosophique indienne, il y avait des niveaux du côté ciel, si vous voulez, et du côté terre, c'est-à-dire de l'inframonde, ou avec une certaine idée d'élévation vers le ciel. Et ceci a été certainement repris par la pyramide, qui en fait n'a été que la projection de la hutte sur une certaine hauteur, si vous voulez. La preuve, c'est que les temples mayas sont minuscules, en fait. C'est une sorte de pétrification, disons, de la hutte indienne.
Et à partir de quelle époque ces centres ont-ils été abandonnés et pourquoi ont-ils été abandonnés?
Ça, c'est assez complexe, parce qu'il faut comprendre qu'effectivement, peut-être, là, je donne un chiffre un peu au hasard, mais entre 400 ou 500 personnes qui connaissaient parfaitement ce calendrier, l'astronomie, toutes les sciences de l'écriture, etc., étaient capables de commander à 100 ou 200 000 paysans et esclaves qui étaient là uniquement pour produire sur le plan agricole et pendant les périodes mortes, construire. Eh bien, on pense maintenant, enfin la théorie la plus solide depuis quelques années est tout de même une révolte de ces paysans et esclaves, peut-être influencée par des invasions du Nord, qui elle était déjà guerrière, donc qui donnait un climat éventuellement assez violent, et une suppression éventuelle de l'élite, relativement facile, avouons-le, parce que supprimer quelques centaines de personnes avec quelques milliers d'individus qui tout à coup se seraient vraiment révoltés, eh bien, ceci expliquerait tout au moins non seulement la disparition des sites et l'abandon des sites, mais aussi la disparition de tout ce qui était scientifiquement valable pour les Mayas. Car le calendrier, la précision de l'écriture, la complexité des calendriers n'a jamais été repris après l'an 900 ailleurs. Donc il n'y a pas eu non plus d'exportation de cette science, si vous voulez.
Est-ce parce que la civilisation maya était en pleine décadence que la conquête espagnole a pu se faire si facilement?
C'est un peu plus long, parce qu'effectivement, entre 900 et 1500, il y a eu une forme de décadence, mais qui a été en même temps une renaissance, car ces peuples, enfin, il y a eu des peuples tels que les Toltecs, qui sont venus du nord, et qui ont permis à certaines cités du Yucatan, ça c'est une autre zone, disons, qui est une terre plutôt sèche et calcaire, ce n'est pas une jungle, c'est une espèce de terre buissonnière, si vous voulez, sur laquelle pousse très mal le maïs et où il pleut malgré tout assez peu. Et là, il y a eu des villes fantastiques comme Chichen Itza et Uxmal qui sont nées à partir de simples puits naturels. Ou... Et ça, c'est surtout dû à cette nouvelle invasion des Toltecs. Et puis ensuite, déchéance. Et effectivement, une grande facilité pour les Espagnols d'envahir cette zone parce que tous ces peuples étaient en fait en conflit les uns. Chaque race, chaque langue était en conflit avec sa voisine.
Et puis les Mayas sont fatalistes aussi, donc ils acceptent facilement tout ce qui vient, tout ce qui arrive.
C'est un peu ma thématique centrale pour faire le joint, disons, je pense au film, là, en l'occurrence, entre le passé et le présent, c'est que si cette philosophie de la mort, dont on parlait tout à l'heure, a pu exister, effectivement, il fallait être fataliste. Mais curieusement, pour eux, le changement d'élite s'est fait assez naturellement. On pourrait reprendre les thématiques de l'espagnol pris pour un dieu. Enfin, pour eux, ça n'était que le changement, je pense aux Aztèques en l'occurrence, le changement de gouvernement et puis en fait d'autres formes de construction, d'autres dieux qui étaient très faciles, il faut l'avouer. Les symboles catholiques ont un avantage énorme. Et ça, on peut en parler puisque Genève est une cité plutôt calviniste. Eh bien, on a d'énormes problèmes avec la religion protestante chez ces Indiens, car il n'y a pas de symbole pour eux dans cette religion. Ils doivent absolument tout annuler ce qui existait dans leur mentalité auparavant. Tandis qu'avec le catholicisme, eh bien, le Christ peut rester le dieu du maïs, la Vierge peut rester la déesse de la pluie sans aucune difficulté, ou le dieu solaire prie aussi pour Jésus ou Dieu lui-même. Disons que calquer les anciens dieux à travers les nouveaux, ça n'a aucune difficulté pour eux.
Cortés, d'ailleurs, n'a-t-il pas été pris pour divinité ?
Il a été pris pour le fabuleux Quetzalcoatl, le serpent à plumes précieuses. Ça, c'est une légende qui prétendait effectivement que cette étoile du matin, et puis c'est aussi un nom, Quetzalcoatl se serait transformé en Vénus, par une forme de sacrifice sur la mer, justement. Et avait justement promis son retour en cette fin de cycle de 52 ans, et bizarrement, 1519 tombe sur l'année 1 du roseau, qui était l'année de la naissance de Quetzalcoatl. Et en première instance, il a pu, Cortés, être pris pour cette divinité, absolument.
Ce qui expliquerait pourquoi les Mayas l'ont suivi, en fait, car ils l'ont suivi.
Donc les Mayas qu'il a touchés, Cortés est arrivé dans la zone Maya d'abord, ensuite chez les Aztèques, mais disons que les Indiens l'ont facilement suivi parce qu'ils ont peut-être très vite saisi qu'il avait la puissance divine ou naturelle pour soulever le joug aztèque. Car à cette époque-là, tout fonctionnait sur tribus. Et les tribus payées aux Aztèques étaient le seul moyen de contact avec la capitale. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout comme les Incas, un peuple qui alourdissait les zones conquises par un système administratif, mais simplement exigeait que ces peuples payent des tribus extrêmement lourds. Et c'était l'occasion de soulever ce joug. Et c'est pour ça qu'effectivement, Cortés a été appuyé par des dizaines, voire des centaines de milliers d'Indiens qui ont eux-mêmes voulu conquérir Mexico.
Thank you.
Combien y a-t-il aujourd'hui, Maurice Efti, de Mayas descendants des Mayas de la conquête espagnole, si je puis dire?
C'est un chiffre que même les recensements ne pourront pas nous donner de manière précise, parce que d'abord, savoir qui veut encore s'appeler Maya ou qui sont vraiment les Mayas, ça c'est complexe, parce que on parlait tout à l'heure de la Sierra Madre et de ces terres d'altitude. Effectivement, ce sont des gens qui sont normalement encore des Mayas, mais il y a eu un tas d'invasions, il y a eu des mouvements de migration du nord, il y en a eu d'autres qui sont remontés du sud, enfin il y a eu des courants assez extraordinaires qui n'ont pas toujours été des courants Mayas. Et la zone que l'on continue à appeler Maya couvre ces différents pays d'Amérique centrale, même jusqu'au Honduras, le Belize, le Salvador, une partie du Salvador, tout le sud du Mexique. Mais donner une évaluation du chiffre, plusieurs millions de toute façon.
Et comment sont-ils considérés par les différents gouvernements, alors, ces Mayas?
Ça, c'est assez délicat, car ces républiques d'Amérique centrale et le Mexique, qui est bien sûr la plus grande, ont des visions assez différentes du monde indien. Et le Mexique a été peut-être le premier à mettre sur plan des aides précises, disons, un centre indigéniste, etc. Au Mexique, l'Indien est minoritaire, malgré tout. Et comme les ethnies sont très différentes, enfin, il n'y a rien à voir entre le nord, le centre, le sud, chaque ethnie est totalement différente, il était assez facile pour le gouvernement d'estimer que l'intégration de ces peuples devait être faite pour aider l'économie nationale, à la limite. Par contre, dans des pays comme le Guatemala, le gouvernement a des vues tout à fait différentes, puisqu'il doit se rendre compte que le 70% de sa population est indien, et l'est toujours. Donc il y a, disons, un nucléo sur le plan de Guatemala City, avec 600 ou 700 millions, 1000 habitants, pardon, on va pas en mettre trop. Et puis effectivement, 3 à 4 millions d'individus qui sont vraiment des Indiens. Alors c'est ces deux mondes opposés, bien que le gouvernement appelle les Indiens des minorités, ce qui est assez extraordinaire. Enfin, c'est pour vous montrer le genre de contact sur le plan de la parole qu'on peut avoir.
Y a-t-il des écoles en général dans les villages mayas?
Alors ça a été la grande difficulté depuis les années 50, si on reprend alors le Mexique par exemple, qui était un peu en avance sur ce genre de choses. Dans les années 50, c'est justement créé des groupes du centre indigéniste qui ont commencé à travailler dans les Chiapas. Justement, c'est cet état des Chiapas, qui est un état maya, qui m'intéresse et où je travaille le plus. Eh bien, on décidait à partir de San Cristobal, de Las Casas, qui est une ville en plein territoire indien, de 30 à 40 000 habitants, on décidait à partir de là de créer... il y avait d'abord une école, un internat, si vous voulez, à San Cristobal, et on a autorisé à peu près 150 Indiens, ce qui est très très peu sur les centaines de milliers qui sont dans la région, à suivre des écoles primaires, par exemple. Et à partir de cela, on a décidé qu'on allait créer des promoteurs, ça a été le nom de l'époque, et ces promoteurs ont été installés dans leur village d'origine afin de donner l'enseignement aux enfants. Mais ça a été assez difficile car... Premièrement, on n'avait pas les livres voulus. On estimait qu'il fallait en tout cas 2 ans d'éducation de base dans la langue maternelle et qu'ensuite, il fallait partir directement sur l'espagnol. Seulement, pour tout ce qui est didactique, par exemple, on a de gros, gros problèmes. Car si vous voulez donner un exemple, admettons que vous ayez une photographie, un dessin ou une diapositive et que vous aimeriez faire comprendre à un indigène qu'il doit avoir un minimum d'hygiène, par exemple, sur le plan de l'eau non potable. Enfin, le 90% boivent de l'eau non potable. Eh bien... comment représenter l'Indien sur ce dessin, puisque chaque tribu a un costume différent? Alors on a essayé par exemple de prendre des morceaux de costume à gauche et à droite pour faire un personnage qui soit interprété par chacun. Seulement le problème s'est posé avec la langue, puisque chacun d'entre eux également parle une autre langue. Donc déjà au départ, d'énormes problèmes. Et puis malheureusement, il faut le dire, pour des raisons économiques, on a fini par revenir au système qui est le nôtre, c'est-à-dire le système courant et universel. Et les enfants des Chiapas apprennent l'espagnol dans les mêmes livres actuellement pratiquement que les enfants de la capitale, ce qui est quand même une aberration sur le plan même de l'image.
Les Mayas sont-ils très attachés à leurs coutumes ancestrales?
Oui, et culturellement, tout fonctionne encore selon leur système à eux. Et c'est assez curieux de remarquer qu'il n'y a que quelques années que certaines tribus ont accepté des municipalités telles qu'on les entend au Mexique et que jusqu'à maintenant, ça a toujours été à base d'autorités religieuses ou par échelle successive dans le pouvoir que tout a fonctionné. Donc il y a effectivement des chocs extrêmement violents avec les habitudes du pays sur le plan sur le plan politique.
En fait, la religion tient une très grande place dans la vie des Mayas.
Il m'est arrivé de dire que 60% de leur temps était consacré en religion. Ça va très loin parce que, effectivement, bon, on voit le côté église lorsqu'on est chez eux. C'est-à-dire lorsqu'on visite un village, on se rend compte qu'il y a une fête, on se rend compte qu'ils pénètrent dans ces églises, qu'ils y prient pendant des heures.
Ils sont chrétiens, donc catholiques.
Ça n'est qu'un nom de baptême. Non, je ne pense pas qu'ils soient catholiques. Beaucoup de régions n'ont plus de prêtres et ça ne les empêche pas, lorsqu'il y a un prêtre, de refuser l'Eucharistie, d'accepter le baptême parce que ça permet aux enfants de croître. Tel un plant de maïs, il y a un tas de choses qu'ils acceptent et d'autres pas. Mais non, ils sont pas chrétiens, à mon avis, et ça, les images du film sont des fois assez éloquentes, c'est des fois même assez intéressant de voir les réactions, disons, d'une salle par rapport justement à des rites qui, au départ, vous paraissent catholiques, et puis dès qu'on commence à décrypter ou qu'on entend ou qu'on remarque un geste différent, on se dit, tiens, le saint n'est pas un saint, c'est effectivement un dieu différent. Ou tiens, ils auraient dû faire une crucifixion, voilà, qu'ils sacrifient un dindon. Donc vous voyez que tout peut être juxtaposé pour eux sans aucune difficulté, bien sûr. L'idée même du mélange ne leur vient pas. Ils le font parce que ça a évolué de cette manière. Mais on était parti sur l'idée des autorités. Et là, il y a, à l'heure actuelle, des conflits entre les tribus elles-mêmes. C'est assez curieux. Parce que comme chacune a encore un système interne différent et qui ne sont pas forcément d'accord avec la tête, c'est-à-dire avec l'État lui-même, c'est assez curieux ces contacts entre métis, il faut le dire, entre les ladinos, c'est-à-dire tous les étrangers et les Indiens eux-mêmes.
Avez-vous pu tourner votre film dans de bonnes conditions ?
Tout à l'heure, là, je n'avons pas terminé en parlant justement de la difficulté à tourner chez les indigènes par rapport aux sites archéologiques. Et c'était souvent après plusieurs jours, je dirais même plusieurs semaines, qu'on a pu pénétrer dans une case et s'y sentir à l'aise, parce que obligatoirement, d'abord la caméra n'est pas acceptée comme élément. Enfin, même un touriste qui se rend en ville à San Cristóbal de las Casas sur le marché aura certainement des ennuis en prenant des photos d'indigènes qui se sont déplacés pour venir faire leur marché. Mais par contre, alors dans les communautés, pendant les fêtes, il faut être extrêmement prudent. Pour montrer jusqu'où les choses évoluent vite, Chamula, qui est certainement une des communautés les plus importantes, 40 000 habitants, un village qui donne l'impression d'en avoir 200, eh bien, maintenant, pour rentrer à l'église, vous passez par la municipalité qui vous donne un ticket et qui vous permet d'être accompagné par deux gardes policiers qui sont habillés en costume avec leur bâton noir et qui vous accompagnent à l'intérieur de l'église afin que vous ne preniez pas de photos. Donc vous voyez qu'à partir d'un simple élément photographique, touristique, eh bien, il a fallu résoudre un problème d'une façon déjà administrative. C'est quand même curieux dans une communauté où, effectivement, en rentrant dans l'église, vous êtes transporté dans un autre monde.
Mais vous avez pu tourner, par exemple, certaines cérémonies?
Oui, mais alors avec la, je dirais même pas la complicité, mais en harmonie avec la personne qui les faisait. C'est justement là où résidait la patience, c'est qu'une fois qu'ils avaient compris qu'on n'était pas là uniquement pour, admettons-le, pour leur prendre quelque chose ou pour les déranger au plein sens du terme, soyons logiques, prenons l'exemple d'une bonne ménagère genevoise ou neuchâteloise, vous aimeriez la voir pratiquer sa cuisine de tous les jours. Bon, on a déjà un contact facile avec les Européens, mais l'indigène ne comprend pas du tout que vous pénétriez dans son monde intérieur, enfin dans son monde privé, et que vous le violez. C'est en fait ce que l'on fait si on ne le fait pas avec de la patience, justement.
Alors, on vous a accepté, donc, lors de ces cérémonies ?
Avec facilité, lorsqu'ils avaient compris qui nous étions. Et puis, en fait, dans certains endroits, nous étions déjà connus. Et ça, c'est peut-être le plus important. Il y a une filière au point de vue autorité, par exemple. Si vous avez l'appui d'une autorité supérieure, il est clair que obligatoirement, il paraît naturel que vous puissiez vous introduire ou voir certaines choses.
Quel genre de cérémonie, par exemple, avez-vous pu tourner ?
Il y a des choses, à l'intérieur des églises, ça, en général, c'est totalement interdit, donc il faut qu'ils l'acceptent vraiment. À l'intérieur des huttes, ça peut être la vie quotidienne, la vie courante, mais dans les cérémonies les plus aberrantes pour l'œil européen, effectivement, ce sont les sacrifices d'animaux, ce sont des actes de guérison, de la sorcellerie.
Il y a beaucoup de sorciers ?
Ah oui, on s'est amusé d'ailleurs dans un petit village au pied du volcan Tajomulco, un village qui a à peu près 600-700 habitants. On avait dénombré 80 sorciers.
Et ces sorciers sont très importants ?
Ils se donnent eux-mêmes de l'importance, car le danger du sorcier, c'est qu'il doit toujours être bon. J'entends, il peut être mauvais sorcier, mais il faut que personne le sache. Mais s'il est bon, il doit toujours réussir à guérir. Et s'il rate une guérison et que les gens comprenne qu'il est tombé à côté, au point de vue diagnostic, au point de vue cérémonie, il est même supprimable. Et il y a fréquemment des assassinats de sorciers. Et c'est une corde raide d'être sorcier. C'est très bien parce qu'obligatoirement, on va vous donner à manger, on vous offrira des poulets, on vous offrira. Il y a un tas de bénéfices, disons, à être sorcier. Mais c'est une corde raide parce qu'il y a tout un monde secondaire chez l'Indien. Ils sont tous. On peut tirer une parenthèse, mais par exemple, chaque Indien a un double animal. C'est-à-dire le système du nawalisme. C'est scientifique, mais en fait, ce système existe pratiquement dans toutes les tribus mayas encore. Et ayant un double animal, l'homme n'est pas toujours censé le connaître. C'est-à-dire que ça peut aller de l'animal faible, prenant la petite souris, jusqu'au plus fort, qui sera le jaguar, par exemple. Or, le jaguar est toujours porté par des êtres supérieurs, tel un sorcier. Or, ces êtres-là ont la faculté de changer de double, ce qui leur permet d'aller n'importe où et de jeter les sorts sur n'importe qui. Mais par contre, ils peuvent aussi connaître le double de chacun. Et il est fréquent que ces gens-là l'ignorent eux-mêmes. Mais par contre, si l'animal est malade, l'homme est malade. Si l'animal meurt, l'homme doit mourir.
Chaque Maya porte en fait deux noms. Son nom et le nom d'un animal.
Très fréquemment, effectivement, le nom espagnol, enfin le plus connu, c'est une autobiographie qui a été faite justement sur un chamula. Il s'appelle Juan, Jean, Pérez. Le nom espagnol, qu'ils ont pris tous pratiquement les mêmes noms, Pérez leur semblait sympathique, et Jolote, qui signifie le dindon. Donc effectivement, là, on remarque très souvent cette ancienne coutume d'avoir un nom d'animal ou à la limite de divinité.
Y a-t-il un rapport, Maurice Efti, entre les Mayas et les Incas ?
Si rapport il y a eu, ce sont des rapports effectivement culturels. On tenterait maintenant à prétendre que, par exemple, l'orfèvrerie aurait pu parvenir du sud, effectivement, à partir du Pérou, elle aurait glissé sur la Colombie, bien sûr, Panama, et depuis Panama, on a remarqué effectivement des importations d'orfèvrerie de Panama dans les zones mexicaines ou guatémaltèques. Et si ces contacts ont pu exister, eh bien, la chaîne a pu se faire petit à petit avec le Sud. Mais c'est un peu ce qu'ont rencontré les premiers conquistadors qui descendaient sur le Pérou. Ce sont des radeaux ou des personnes qui longeaient les côtes avec des canoës et qui étaient des marchands ambulants, en fin de compte.
Quel est, selon vous, Maurice Efti, l'avenir des communautés mayas ?
Le leur. Mais le leur, car c'est peut-être la seule solution, enfin... Celle pour le moins que je pense qu'il faudrait préconiser, mais l'avenir le plus certain qu'ils auront, c'est un avenir de Mexicains.
Mais ils sont voués au progrès, à la civilisation,
entre
guillemets.
C'est pour cela que je dis de Mexicains, car la seule chose que peut faire un pays tel que celui-ci, c'est créer un grand pool génétique unique, c'est-à-dire que pour une fois, on puisse perdre ce découpage entre blancs, métis et indiens.
Donc vous croyez qu'ils vont se noyer dans le peuple mexicain ?
S'ils se noient, c'est en perdant tout, de toute manière, mais...
C'est bien pourquoi je vous pose la question.
Effectivement.
Sont-ils amenés à disparaître, en d'autres termes ?
Je crois qu'on a mis en route des mouvements tellement tellement implacable que justement, c'est peut-être seulement en aidant cette forme de résistance par l'extérieur, en les laissant agir tels qu'ils ont envie d'agir. Parce qu'il ne faut pas, folkloriser l'Indien. Il m'arrive d'être accompagné par des petits groupes d'Européens. Et on me signalait, là, au mois de décembre, que le fait d'offrir dans une église une boisson bien américaine, on est sur la radio romande, eh bien, comportait une forme d'acculturation tragique. Pour moi, pas du tout, parce que vous offriez cette boisson ou qu'ils offrent de l'alcool tel qu'ils faisaient avant, le geste religieux est exactement le même, ils donnent à boire aux dieux. Et là, c'est dangereux, justement, de vouloir folkloriser. Il y a une évolution chez nous comme chez eux. Elle nous paraît négative parce que nous avons l'impression d'avoir fait certaines expériences. On a fait la même chose en Afrique, on a fait la même chose en Asie, mais enfin... il est difficile de se prononcer parce que le fait même de se prononcer, c'est prendre une position qui est souvent trop draconienne.
Mais le tourisme, un certain tourisme, a-t-il atteint les communautés mayas?
Ah oui, je suis bien placé pour le savoir. Si je vous disais qu'il m'arrivait d'être accompagné par des Européens, ce sont malgré tout des gens qui, même sous une idée plus culturelle, font du tourisme dans ces zones-là.
Sous couvert de culture.
Je n'irai pas jusque-là, car la préparation est une chose importante en tourisme. Et nous sommes à une époque de masse, et c'est la masse qui est dangereuse. Il est moins dangereux d'arriver avec 10 personnes qui savent à quoi elles sont, ou qui savent exactement à quoi elles doivent s'attendre, que d'arriver avec un groupe de 100, ce qui est fréquent, je vous assure, de 100 à 150 personnes qui sont simplement lâchées sur une zone dans laquelle on est plein d'interdits. Alors là, il y a effectivement deux tourismes. Maintenant, il y a un mouvement qui se fait en faveur d'un tourisme toujours plus de masse. Et en même temps, je crois qu'il y a aussi un mouvement de conscience d'un certain tourisme. Alors, volontairement, par exemple, pour le film, ça, c'était un problème de conscience, justement. Fallait-il choisir des communautés très retirées et en faire une sorte de publicité, à la limite? C'est-à-dire, si je citais certains villages où nous sommes allés, ça pourrait donner effectivement envie à un Américain ou à un Européen de s'y rendre pour voir la fête que nous avons tournée ou la cérémonie que nous avons pu ainsi prendre en image. Mais volontairement, on a choisi des sites qui sont déjà touchés par le tourisme. Et Chichicastenango est connu dans le monde entier. San Cristobal a été la mecque d'un certain hippie. Et ensuite, effectivement, les Français s'y sont mis. Et ça va très vite. En quelques années, un site ou une petite ville coloniale peut être à la mode. Eh bien, en tournant volontairement dans ces régions déjà touchées, on a seulement pu prouver qu'on passait trop vite. C'est-à-dire que le tourisme était mal fait. Et tout ce qu'on a obtenu sur le plan... on parlait de sacrifice tout à l'heure, eh bien c'est des choses où chacun peut se rendre à l'heure actuelle en tant que touriste. Après sa nuit d'hôtel, il peut monter sur la colline de Pascuala Baja, Chichicastenango, voir des sorciers avec leurs encensoirs, mais ils ne verront jamais le sacrifice d'un poulet. Pourquoi? Parce que l'Indien sait très bien à quelle heure il doit le faire, dans quelles circonstances il peut le faire. Et même maintenant, il y a une sorte d'émigration de ces cultes religieux à 2 kilomètres. C'est suffisant, puisque Pascuala Baja étant à 700 mètres, n'importe qui peut faire une petite marche, mais à 2 kilomètres, personne n'y va.
Mais vous ne pensez pas que dans quelques années, peut-être, les Indiens organiseront pour les touristes des sacrifices d'animaux?
J'ai l'impression que les sacrifices ont disparu avant. C'est-à-dire que pour eux, il est bien difficile, pour l'instant, de séparer ce côté religieux et culturel du théâtre.
En vous posant cette question, je pensais à certains Indiens d'Amazonie, notamment.
Oui, tout à fait. Mon Dieu, il y a certains parcs où on a l'habitude de singer d'anciennes coutumes. Mais le danger existe, il est même déjà... visible chez les Lacandon, par exemple, cette fameuse tribu étudiée par Soustelle et tant d'autres. On a même une plaisanterie qui prétend qu'il y aura plus d'ethnographes que de têtes de Lacandon. Mais effectivement, ça change très vite, puisque eux avaient l'habitude de modeler leurs dieux dans l'argile, et qu'aujourd'hui, effectivement, on les trouve, même à San Cristobal, à pratiquement 150 km de là, on les trouve dans les boutiques. Et bon, là, la cassure ne s'est pas faite curieusement par le tourisme, elle s'est faite par la religion. Nous parlions tout à l'heure d'autres formes religieuses. Eh bien, effectivement, les Américains, en général protestants, ont transformé la culture et la religion des Lacandons, et pour eux, ces dieux sont morts. Donc, c'est à l'instant où la divinité meurt qu'ils peuvent éventuellement la rendre touristique, effectivement. Mais je ne conçois pas qu'un Indien profondément religieux ou qu'un sorcier puisse, à l'heure actuelle, mentalement, faire un sacrifice gratuitement. Je vous donne un exemple bien sympathique. On avait été assez troublé de l'acceptation d'un sacrifice, justement, à Chichicastenango par quelqu'un qui était devenu notre ami, qui était à la fois sorcier et confrère de l'Église. Et bon, la cérémonie a duré à peu près une heure. Il était accompagné de son épouse et de son petit gosse. Et à la fin, bon, je me suis dit, c'est déjà étrange qu'il nous ait prévenu qu'il faisait ça à chaque nouvelle saison agricole. Mais à la fin, une fois qu'on avait terminé de tourner les images, eh bien, il m'a appelé, il m'a obligé à me mettre pratiquement une demi-heure à genoux devant la statue. Il a dû m'allumer certaines bougies et il m'a bien expliqué que c'était à travers moi et pour moi qu'il pouvait le faire et pas gratuitement, à la limite. J'entends, ça n'était pas pour lui-même, mais c'était surtout pour moi parce que l'humanité peut exister aussi entre un Indien et un Européen.
Merci Maurice Efti. Il me faut encore ajouter que vous présenterez votre film étrange et captivant en Mexique, Le mystère des Mayas, demain à Genève, mercredi en Huitaillant sur Morge et jeudi à Lausanne. À demain, 17h en question, avec Roger Icor.